Et la suite, c'est j'invite Daniel Linhart à nous rejoindre. Et puis côté que tout le monde connaît, enfin on va la présenter et elle va elle-même pouvoir dire pas mal de choses, je crois. Il y a beaucoup de choses à dire, mais enfin ça, il faut que ça tienne à peu près en 20 minutes, quoi. C'est juste le problème. Enfin bon, à peu près. La seule contrainte qu'on ait effective et qui est claire et déterminée, c'est 18 heures. Mais ça nous laisse le temps pour faire la même séquence que tout à l'heure, à la fois donc débat, présentation introductive du monde du travail par Daniel, les aspects concernant tout ce qui est l'état des lieux face à la tourmente managériale, c'est comme ça qu'on l'a intitulé. Daniel Linhart est directrice de recherche émérite au CNRS, je ne sais pas si ce qui est écrit là, est membre du laboratoire CRESPA, et dans son dernier ouvrage, La comédie humaine du travail, qui est, je crois, le dernier, c'est bien ça, elle poursuit ses précédentes recherches en sociologie du travail, justement sur la modernisation des entreprises et l'évolution de l'organisation du travail qui l'accompagne, et en particulier en abordant le nouveau management dit humaniste. Viennent s'installer également, alors cette fois, les représentants du monde du théâtre, en l'occurrence deux metteurs en scène, comédiens, etc., qui sont Vincent Dussard au milieu et puis Elsa Bosque. Vincent Dussard est le responsable, le directeur artistique, etc., de la compagnie de l'Arcade qui a monté plusieurs pièces sur le thème du monde du travail et des pièces d'auteurs dont on a parlé tout à l'heure, en l'occurrence Falk Richter et Alexandra Badea. Et puis d'autres peut-être, si tu as encore des pleins dans ta poche, ça c'est possible. Mais en tout cas, moi j'ai vu ces spectacles. J'ai vu également le spectacle monté par Elsa Bosque et sa collègue Yaël de la compagnie La Véraison, et qui jouent, ou qui au moins ont joué, parce que je l'ai vu deux fois, le spectacle Contraction de Mike Bartlett. Et là, on voit à l'œuvre la perversion, un peu comme on vient de la voir avec Nina et les managers, qui peut être à l'œuvre dans certaines entreprises face à des fous comme celui qui était là-bas à gauche. Enfin à droite pour vous. Donc la parole, je voudrais la passer tout de suite pour qu'on ne perde pas de temps à Daniel, qui a sûrement plein de choses à dire sur cette deuxième partie qui est moins consacrée aux pièces sur la vie au travail et sur les témoignages de la vie au travail que sur l'importance de traiter du monde au travail d'aujourd'hui en pensant au poids que les modèles inspirés de l'entreprise qui se diffusent dans la société ont sur les évolutions de notre monde en général. Donc ça, on y reviendra aussi dans le débat avec vous. C'est une question importante et qui traite plus donc des causes de la situation dont on a parlé dans la première partie, parce qu'il y a des causes qui sont pas toujours bien vues, il y a des causes obscures, il y a des causes visibles et des causes qui ne le sont moins. Voilà, je laisse la parole à Daniel, qui a plein de choses à dire, évidemment.
Merci beaucoup. Alors, je voudrais quand même faire un peu le lien avec ce qui s'est passé avant, parce qu'on ne veut pas déconnecter totalement. Et j'avais envie de dire que les sociologues ou les psychosociologues, les ergonomes donc, qui étudient le travail, comme j'entendais tout à l'heure le dire les metteurs en scène ou les programmateurs ou les directeurs de théâtre, eux aussi, ils ont envie de crier. Eux aussi, ils ont vraiment envie de faire passer des émotions, des sentiments, parce qu'il y a un phénomène qui est très important, me semble-t-il, et qui explique peut-être pourquoi il y a si peu d'engouement pour les pièces de théâtre consacrées au travail. C'est que nous sommes face, en France notamment, à une opinion publique qui est extrêmement défavorable à ce qu'on pourrait appeler l'émergence ou la mise en scène d'une plainte, d'une critique à l'égard du travail. L'opinion publique française, elle a été construite comme ça et convaincue du fait que, en France, nous sommes des privilégiés qu'en France, tout va trop bien même, parce que les salariés, les fonctionnaires sont protégés par un code du travail extrêmement enflé et obèse, comme ils disent, parce qu'en France, contrairement à d'autres pays, on a une durée du travail qui est très faible, les 35 heures. Et donc, il y a toute une représentation du monde du travail qui a été imposée. Et on peut dater cette démarche depuis 1984, donc une image qui s'est imposée à travers laquelle les Français seraient plutôt paresseux au travail et seraient plutôt frileux et ça, ils n'ont pas de raison véritablement de souffrir au travail, et donc c'est incompréhensible, et ça viendrait en 1984. Je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent, il y a eu une émission à la télévision avec Yves Montand, qui s'appelait « Vive la crise ».
Vive la crise, oui.
Voilà. Et qui disait « Waouh, c'est terrible, il y a la crise qui arrive, mais tant mieux, au moins les Français vont pouvoir comprendre qu'il faut se retrousser les manches et repartir au travail, parce que de ce point de vue-là, on a beaucoup de choses à apprendre des autres pays. » Voilà. Je pense que peut-être c'est une des raisons pour laquelle il y a peu d'appétence à la mise en scène d'une façon tragique, comique, comme on l'a inventé tout à l'heure, des enjeux du travail, parce qu'en France, nous avons trop de fonctionnaires, nous sommes trop protégés par le code du travail, nous travaillons trop peu, etc., etc. Ce qui est contraire à la réalité, et c'est pour ça que je voulais commencer en disant, quand on fait des enquêtes de terrain, quand on est sociologue comme moi, des fois on a envie d'hurler, de crier, parce qu'on voit dans les entreprises, on entend au cours des interviews, des gens être vraiment au bord du précipice, ne plus en pouvoir, et dire « personne ne m'entend, personne ne veut m'écouter, personne ne me comprend ». Ça, c'est une problématique qui, à mon avis, est très très importante et qui vient, me semble-t-il, d'une réalité alors que tu évoquais, Gilbert, à savoir une inventivité managériale extraordinaire, une capacité de mise en scène idéologique de la part du management qui existe depuis le début du taylorisme, du fordisme, et puis des différentes modalités de mise au travail qu'on a pu voir, mais le management est spécialisé sur la mise en scène du travail, est spécialisé dans le storytelling, raconte des récits absolument prodigieux. Il faut savoir que quand Taylor a conçu son modèle, il a dit le savoir c'est du pouvoir, il ne faut pas le laisser aux ouvriers, il faut donc donner le savoir et le pouvoir aux ingénieurs, sinon c'est les ouvriers qui donneront qui prendront toutes les décisions en matière de productivité, et donc il a éclaté les métiers, comme on le sait, en tâches élémentaires, et ça a donné ensuite les chaînes de montage et tout ce qui s'ensuit, et au passage le merveilleux film de Charlie Chaplin quand même qui montre qu'on peut parler des gestes du travail et qu'on peut faire passer beaucoup de choses à travers la mise en scène des gestes du travail. Eh bien, il faut savoir que Taylor, quand il a mis en place ce système qui était d'une violence inouïe à l'encontre des ouvriers de métier, puisqu'il leur retirait leur métier, il leur volait leur savoir, leurs compétences, leurs connaissances, etc., bien, Taylor a dit « j'ai démocratisé le travail, je l'ai mis à la portée de tous ». Avant, il était aux mains de gens de métier, maintenant n'importe quel paysan pourra arriver travailler dans mes usines parce que j'ai démocratisé le travail, je suis un bienfaiteur de l'humanité. Voilà. Et tous les inventeurs de nouveaux modèles managériaux ont raconté des histoires et se sont présentés comme des bienfaiteurs de l'humanité, au point, il faut le savoir, que Henry Ford, lorsqu'il a mis en place ses chaînes de montage et qu'il a conçu tout un programme de communication, il a racheté un journal qui s'appelait le Dearborn Independent, où il faisait la une tous les 15 jours pour montrer combien son système était magnifique, les chaînes de montage, qui ont connu au début un turnover de 300%, parce que les ouvriers disaient « personne ne peut survivre dans ces conditions ». Il faut savoir que Ford a failli avoir le prix Nobel de la paix. Il a été considéré comme, lui aussi, un bienfaiteur parce que la productivité augmentait de façon phénoménale et il disait, comme Taylor d'ailleurs, il faudra augmenter un peu proportionnellement les tarifs auxquels sont payés les ouvriers. Donc la capacité des managers d'inventer des représentations idéologiques de la manière dont ils mettent au travail leurs travailleurs, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Alors, on a parlé de la rupture de 68. Effectivement, en 68, le taylorisme, l'autoritarisme dans les entreprises a été remis en cause par les ouvriers. C'était en France trois semaines de grève générale avec occupation d'usines. Et à ce moment-là, les managers ont été en mesure d'inventer, mais alors, une autre histoire absolument merveilleuse de transformation considérable des conditions de la mise au travail, articulée autour du fait nous rompons avec le taylorisme et nous voulons faire la promotion des hommes et des femmes dans les entreprises. C'était sur le mode gaulliste, de, vous savez, pour ceux qui sont un peu plus anciens, de « je vous ai compris », comme disait le général de Gaulle. Vous voulez de l'autonomie, vous voulez de la reconnaissance au travail, vous voulez pouvoir vous exprimer et vous reconnaître dans votre travail. On va tout faire pour que ce soit réalisé. Mais en réalité, qu'est-ce qu'ils ont réalisable, pardon, excusez-moi. Mais en réalité, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce que le management a décidé ? C'est d'inverser le rapport de force, d'individualiser, de personnaliser la relation de chacun à son travail, de casser les collectifs et d'utiliser la psychologie comme moyen de manipulation des salariés pour les mettre en concurrence les uns avec les autres et pire encore, pour les mettre chacun en concurrence avec soi-même. On entrait dans la logique du « il faut se dépasser, il faut sortir de sa zone de confort pour grandir, il faut prendre des risques, il faut se remettre en cause ». C'est là que vous montrerez véritablement qui vous êtes. Vous vous révélerez à vous-même et puis vous serez des top performers, vous ferez, vous permettrez à votre entreprise de gagner des parts de marché et grâce à vous, les emplois seront préservés. Donc toute une sorte de mise en scène pour le coup vraiment orchestrée par le management, on est là pour votre bonheur. Ça a été évoqué tout à l'heure par Bérénice qui disait il y a le management par la bienveillance et puis il y a le management par la terreur. Moi, j'aurais envie de dire, c'est le même. C'est les deux faces d'un même management. C'est-à-dire que le management par la terreur existe parce que l'emprise sur la personne subjectivement est extrêmement forte. Et du coup, chacun est déstabilisé, vulnérabilisé, précarisé subjectivement. Il est tout seul parce que les collectifs sont cassés, que tout le monde est en concurrence avec les autres. Il est sommé de montrer qu'il a des traits de caractère, des forces de sa personnalité qui lui donnent de la valeur. Et parce que tout ça est actionné en permanence, du coup, on peut instaurer un management par la terreur parce qu'on peut lui dire tout ça, tu peux le perdre du jour au lendemain. Tu peux perdre tout ça. Ton investissement personnel, l'image de toi, l'idéal de toi que tu mets au travail, la reconnaissance, l'affection, la bienveillance de ton management, de ta hiérarchie, tout ça, tu peux le perdre du jour au lendemain et on te considérera comme quelqu'un de nul, comme quelqu'un de sans valeur. C'est parce qu'il y a ce management de la bienveillance et l'investissement dans la subjectivité des gens qu'après on peut leur faire très peur. Regardez, il était évoqué tout à l'heure aussi, le procès de France Télécom, c'est ça. On voit des professionnels fiers de leur métier, fiers de leur entreprise. France Télécom, c'était une entreprise absolument merveilleuse qui avait inventé le Minitel, la première au monde, et qui était capable de prouesses extraordinaires. Et on incitait les agents à s'investir dans leur travail, à s'identifier aux valeurs du service public, etc., etc. Et puis du jour au lendemain, la donne avait changé puisqu'il y avait une privatisation qui était en cours. Il fallait séduire les marchés financiers et donc des décisions sont prises. On va en virer 22 000, comme avait dit élégamment Didier Lombard, le PDG de l'époque, par la porte ou par la fenêtre. Hein, on va faire partir 22 000 personnes par la porte ou par la fenêtre. Donc du jour au lendemain, ils ont été capables de retourner complètement les modalités de management de ces agents-là. Et eux, qui étaient reconnus, qui se reconnaissaient dans leur travail, on leur disait « Ah, t'es encore là, pourtant on t'avait dit que peut-être ta place n'était plus chez nous et que tu devrais consulter des propositions de travail, des propositions de travail à l'extérieur. Pourquoi tu ne penses pas à être camionneur, à ouvrir une pizza C'est vraiment des choses réelles, à être maître nageur, des ingénieurs, des techniciens de France Télécom, du jour au lendemain. Et là, c'est toute leur image, leur identité professionnelle, leur valeur qui était remise en question. Ils étaient humiliés. Donc on voit comment la bienveillance, le management, humain peut jouer se transformer en management de la terreur, absolument radicalement. Ça a été le début d'une descente aux enfers pour de nombreux agents de France Télécom. Il y a eu un nombre de suicides, de tentatives de suicides. Je ne sais pas si vous avez suivi les minutes du procès. Il y en a qui se sont immolés. Il y en a qui se sont jetés sous le train en parlant à leur DRH. Il y en a qui se sont plantés un couteau dans le ventre en plein milieu d'une réunion. Il y en a qui se sont défenestrés pour bien montrer que c'était leur travail. Pourtant, on dit au procès, oui, c'était des personnes fragiles. Et comme a dit un avocat, il y avait même du harcèlement post-mortem, parce que d'une femme qui s'était suicidée, on disait, ouais, mais voyez-vous, c'est une femme qui n'a jamais eu d'enfant, donc on peut penser qu'elle n'avait pas une propension au bonheur. Oui, mais c'est la réalité. Donc, pour vous dire que cette capacité de construction idéologique, de construction de récits pour faire passer une image des enjeux du monde du travail, le management le prend très au sérieux et réussit de façon absolument magnifique. Regardez maintenant le nouveau courant qui est extraordinaire face à cette évidence que maintenant c'est difficile de ne pas parler de souffrance au travail. Alors, on parle de risques psychosociaux, de stress, de burn-out, de souffrance, même si on trouve que c'est malvenu, comme je disais tout à l'heure, parce qu'en France on va bien. Et cette idée que ça passe peut-être moins bien, je pense que le procès France Télécom va poser historiquement un acte qui va mettre en question ces modalités de management. Ne vous inquiétez pas pour eux, il y a déjà les solutions de rechange. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce merveilleux courant des entreprises libérées, des patrons d'entreprises qui du jour au lendemain ont dit, voilà, nous allons libérer nos salariés. Libérer comment ? Libérer de quoi ? Nous allons créer de l'horizontalité. Ça a été évoqué parce que déjà dans les travaux de Boltanski et Capello, effectivement, on parlait de ces entreprises horizontales où la hiérarchie était écrasée, où les salariés étaient censés s'auto-manager, s'auto-discipliner, s'auto-diriger, s'auto-motiver, avoir des relations directes avec leurs usagers ou leurs consommateurs et avec leurs financiers, etc., etc. Et donc, on a maintenant une nouvelle vision du monde extraordinaire, d'entreprises libérées, mais qui, en réalité, sont des entreprises perçues sur le mode de la secte, avec un pas de plus dans l'emprise exercée sur les salariés, par une intériorisation extrêmement exigeante de ce qu'ils appellent la vision du leader. Les salariés doivent se transformer en followers de la vision du leader. Ils doivent absolument tout intérioriser. Moyennant quoi, on n'a plus besoin de les contrôler. Et comme disent les patrons des entreprises libérées, on peut faire beaucoup d'économies puisqu'on va supprimer beaucoup de hiérarchies intermédiaires et on pourra même supprimer certaines directions opérationnelles. Donc là, encore de nouveau, plein de gourous, plein de colloques, de congrès, de médias qui sont consacrés aux entreprises libérées qui vont vraiment nous sortir de ce drame de la souffrance au travail, puisque ce sont les salariés qui vont tout décider eux-mêmes et qui vont s'autogérer et ce seront eux les véritables dirigeants de l'entreprise, les patrons de l'entreprise, alors qu'il ne s'agit que de trouver les moyens soft, les moyens beaucoup plus silencieux et beaucoup moins critiquables de l'extérieur, d'imposer aux salariés des modalités de travail, des procédures, des protocoles, des process qui ont été inventés en dehors d'eux et en contestant leur propre professionnalité, leurs propres compétences. Alors, le problème face à ça, c'est qu'il y a un manque d'imagination syndicale. Face à ça, non mais j'ai beaucoup de respect. Je travaille avec les syndicats, vraiment, notamment avec Sud, avec la CGT. Je fais des séminaires de formation, etc. Je les connais bien, je les estime énormément. Ils font un travail fondamental et fabuleux, mais ils ne sont pas en mesure de se situer à ce niveau d'inventivité managériale qui raconte des histoires, qui met en scène le travail, qui crée du. Eux, ils sont prisonniers parce que qu'est-ce que font les syndicats et les salariés eux-mêmes ? Ils, comme ça a été très, très bien débattu tout à l'heure, ils nourrissent ce modèle en investissant eux-mêmes de sens et de beauté, de grandeur, le travail tel qu'on leur impose. Parce qu'il faut qu'ils puissent s'en sortir, mais ils nourrissent, ils rendent efficaces et opérationnelles des procédures, des protocoles, des process qui ont été inventés, concoctés à distance et qui ne sont pas efficaces et qui leur fait faire un travail de mauvaise qualité le plus souvent et grugeant d'ailleurs le consommateur. Moi, je peux vous donner une petite anecdote. J'ai vu dans les abattoirs des femmes qui se sont mises en grève parce qu'à un moment donné, il y avait eu beaucoup d'abattage et on avait demandé aux hommes qui sont très qualifiés dans les abattoirs de venir la nuit faire le travail des femmes pour accélérer le mouvement. Et ce que faisaient les femmes, évidemment, c'était de s'occuper des abats. Les femmes, elles ne découpent pas, elles ne tuent pas et elles ne découpent pas, mais elles engrangent le foie, le cerveau et tout ça dans des petites barquettes. Elles baignent dans le sang, dans les odeurs absolument inimaginables. Bref, c'est leur boulot. Et le contremaître arrive et me dit, mais comment se fait-il, je ne comprends rien. Elle fout toutes les encours, c'est-à-dire tout le travail qui avait été avancé et qui n'était pas reparti dans les camions à la poubelle dès qu'elles arrivent le matin au travail. Mais pour nous, c'est une perte, c'est du gâchis. Et quand on leur dit arrêtez, elles disent on se met en grève si vous nous demandez de ne plus faire ça. Alors bon, je fais des interviews, pourquoi? Et leur réponse c'était, il faut l'entendre quand même, est-ce que vous pensez que ces messieurs qui sont tellement qualifiés, ils sont capables de faire un travail avec la finesse, la beauté, m'ont-elle dit, tel qu'on le fait nous quand on prépare les barquettes et qu'on sait qu'elles vont être envoyées aux grandes surfaces. Nous, on le fait avec délicatesse, on le fait. Mais il faut entendre ces mots et avoir à l'esprit, à l'œil plutôt, les conditions dans lesquelles elles étaient, baignant dans le sang, les odeurs, les abats, etc. Donc, elles étaient capables de réinjecter de la beauté, de la finesse, etc., dans un travail qui les faisait vomir. Elles le disaient elles-mêmes. La première quinzaine de jours, quand elles venaient, elles vomissaient toutes. Voilà. Et le management profite largement de cette nécessité pour que chacun a son travail, de l'investir de manière à se raconter à lui-même des histoires. Il y a non seulement le storytelling du management, mais il y a aussi le propre storytelling que chacun se fait sur son poste de travail pour trouver de la beauté et du sens et faire souvent des tâches qui sont même contraires à sa propre éthique professionnelle parce que, par exemple, sur les plateaux de téléconseillers, on vend n'importe quoi à n'importe qui, indépendamment des besoins réels. Donc, le monde dans lequel nous sommes, on l'oublie trop souvent, ne peut survivre et perdurer que par cette production idéologique qui se renforce aussi de plus en plus, mais ça a été évoqué dans le cadre de l'ultralibéralisme par le TINA, there is no alternative, on ne peut pas faire autrement, il faut défendre les emplois, il faut défendre les entreprises, donc il n'y a pas le choix. Et c'est de tout cela qui rend les choses possibles, qui fait tenir un système qui est absolument abominable. Et moi, je dirais, pour finir, parce que je ne veux pas être trop longue, que cela repose sur une réalité qui n'est pas remise en question, dont on ne parle jamais. Enfin, c'est évoqué ici et là, mais comme quelque chose d'absolument normal et qui fait partie du système et qui partira jamais. C'est la clause de subordination qui est au cœur de la relation salariale et qui fait que tout ce dont nous parlons peut exister et peut durer. Si les gens acceptent d'être harcelés moralement, même sexuellement, s'ils acceptent d'être en situation de burn-out ou de bore-out, s'ils sont dans les situations telles qu'elles ont été merveilleusement bien décrites dans les différentes lectures, c'est tout banalement et simplement parce que chacun, quel que soit son niveau de compétence et son statut dans l'entreprise, est soumis à une clause de subordination. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de critiquer quoi que ce soit. On n'a pas le droit. Et le pire, c'est que la plupart des gens, les salariés et les organisations syndicales, considèrent que c'est quelque chose de naturel, quelque chose de normal, que c'est grâce à la subordination qu'il existe ces contreparties absolument indispensables et nécessaires que sont les garanties, les protections, le code du travail, etc. Parce que c'est la subordination qui rend l'employeur responsable. Et c'est parce que l'employeur est responsable qu'il doit veiller à la santé de ses salariés. Et donc, nous sommes pris dans ce piège absolument abominable que va perdurer cette relation de subordination pour améliorer le, pour pouvoir améliorer à terme le sort des salariés pour qu'ils soient des, pour que leur santé soit protégée, pour que leurs droits soient garantis, etc. Regardez ce qui se passe avec les travailleurs ubérisés, pour certains. Ils se roulent au pied, je m'excuse de cette expression, des juges pour expliquer qu'ils sont vraiment subordonnés et que du coup ils méritent d'être reclassifiés comme salariés et d'avoir des droits. C'est assez extraordinaire. Donc, pour terminer, je voulais simplement dire, si on veut être dans le théâtre c'est aussi l'imagination, c'est aussi c'est aussi dans le sens de l'invention, de la production de nouvelles idéologies. Il faut accepter de remettre en cause cette clause de subordination comme étant quelque chose d'absolument décisive. Et je dirais, si on veut sauver la planète aussi, parce que les entreprises, le management des entreprises, grâce à toute cette idéologie, sont prédatrices des ressources humaines sans bruit férir, mais elles sont également prédatrices des ressources de la planète, pour les mêmes raisons, parce qu'il n'y a pas de critique possible au sein des entreprises. Et de la même manière qu'on piétine des hommes et des femmes dans l'entreprise, on continue avec cette même rationalité ultralibérale à exercer une prédation des ressources de la planète qui risque de mettre en danger notre espèce. Donc voilà, je voudrais juste conclure pour dire que de mon point de vue, tout ce qui est mis en scène, que ce soit dans les romans, au théâtre, ou dans le film, et qui pourrait parvenir à déconstruire ces idéologies qui nous semblent incontournables et qui ont été savamment et très stratégiquement produites par le management, eh bien allons-y. Et je voudrais ajouter, tu as fait la présentation de mon dernier ouvrage. En fait, mon dernier ouvrage, et c'est une toute petite pierre aussi, c'est une bande dessinée sur le burn-out que j'ai faite avec une dessinatrice qui s'appelle Zoé Touron, parce que je pense qu'il faut absolument essayer d'utiliser tous les moyens artistiques possibles pour que se diffuse dans l'opinion publique cette idée d'une légitimité de la critique du monde du travail. Parce que ce dont nous souffrons fondamentalement, et notamment le théâtre aussi, c'est de cette légitimité à critiquer le monde du travail, parce qu'elle n'est pas encore communément partagée dans notre pays. Voilà, c'est ça que je voulais dire.
Ben, merci. Merci de cet éclairage brillant, comme d'habitude. Je voudrais, ça fait un lien d'ailleurs très fort avec les pièces que tu as mis en scène, Vincent. Je pense sur, parce que tu as parlé tout à l'heure de ces modes managériales qui se répandent. Et elles se répandent au travers de quoi ? Au travers beaucoup des consultants. Et les consultants, c'est l'objet de la pièce Nobody à partir de Unter Eis de Falk Richter. Est-ce que tu peux donc continuer sur les motivations, pourquoi tu as choisi ces textes-là, pourquoi tu t'es intéressé à la thématique du monde du travail, en particulier d'aujourd'hui, puisque Badea, c'est aussi la vie au travail aujourd'hui, aux quatre coins du monde. Et de quelle façon vous avez pu aborder ces thématiques qui sont tout à fait contemporaines? Quelle a été la réception des publics? Je me pose toujours cette question-là. Les problèmes de diffusion rencontrés, on voit les difficultés de diffusion d'une pièce comme Nina et les managers, alors que je peux assurer qu'elle a des choses à dire. Les leçons que vous en tirez sur le potentiel d'éveil des consciences, peut-être aussi, mais là c'est un peu plus compliqué, peut-être qu'on y viendra à la fin, l'importance, quelle est pour vous deux l'importance de s'y intéresser, et Daniel en a un peu parlé de son point de vue, l'importance de s'intéresser plus qu'on ne le fait, on le constatait tout à l'heure, à ce monde du travail tel qu'il est et dont on vient de voir un certain nombre de ses caractéristiques. Bon, ça fait beaucoup, peut-être.
Oui, ça fait un peu...
J'y reviendrai pas à pas.
On va rester là toute la nuit. Non, bonsoir. Donc, effectivement, j'ai monté Sous la glace de Falk Richter. Et puis, à la suite de Sous la glace, j'ai monté Pulvérisé d'Alexandra Badea. D'abord, pourquoi ? D'abord parce que je travaille. Et puis d'abord parce que c'est mon travail, en fait. Et... pendant tout un temps, j'ai été comédien et je pense que je suis devenu comédien parce que j'avais l'impression que j'existais pas et que le seul endroit où je me sentais exister était sur une scène où la force du regard de l'autre faisait que tout d'un coup, ce regard me remplissait. Et puis, bien évidemment, donc pour moi, c'était la promesse de ce travail-là. Et puis la souffrance qui était en lien avec cette promesse, elle était particulièrement importante pour moi parce que c'était compliqué de tenir face au non-désir de l'autre ou à son désir de temps en temps, mais plus souvent à son non-désir. Au bout d'un moment, je suis devenu metteur en scène pensant échapper à ça. Et puis, j'ai pas vraiment échappé plus. La névrose a continué. Ce qui a commencé à m'intéresser, c'est de voir comment mon propre milieu de travail se servait de ça, de cette défaillance du sentiment d'exister, qui m'était intime, se servait de ça, s'appuyait là-dessus, tapait là-dessus, finalement, pour m'envoyer dans telle ou telle direction. Voilà, l'institution publique théâtrale française. J'étais à un colloque ce matin où je suis sorti du colloque. Je me sentais hyper coupable de pas être assez médiateur, de pas être assez productif, de pas être assez sur mon territoire, de pas être assez en dehors de mon territoire, de pas être assez mobile, de pas être assez. Voilà. Et donc j'ai voulu interroger est-ce que ça m'appartenait cette chose-là ou est-ce que c'était plus répandu. Je suis tombé à ce moment-là sur un livre dont on parlait tout à l'heure qui s'appelle « Ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient frappés » de Marie Peset, et puis juste derrière « Souffrance en France » de Christophe Dejour. Et tout d'un coup, ça m'a presque déculpabilisé. Je me suis dit « Ah, mais je ne suis pas là, tout seul à ressentir ça. » Cette promesse-là de la construction de soi, l'engrangement de la reconnaissance et du sentiment d'exister, je la partage avec d'autres. Et ce qui m'intéressait, c'est de voir comment l'entreprise, alors au-delà du monde théâtral, d'abord je me suis dit, mais peut-être c'est que dans le théâtre que c'est comme ça. Là, je fais le naïf. Donc, comment le monde de l'entreprise, l'institution publique, les gouvernements, finalement, utilisent ce manque de construction de l'ego pour aller imposer des choses. Et dans Sous la glace, ce qui m'intéressait particulièrement, donc ce n'est pas Nobody, hein, parce que Nobody, c'est vraiment un rassemblement c'est de textes de Richter. Ouais. Là, c'est vraiment c'est ce lien extrêmement pertinent, je trouve, qu'il a fait entre cet enfant, un enfant, Jean-Personne en plus, le pauvre, c'est con de s'appeler personne, qui n'a pas le sentiment d'exister et qui, pour arriver à se sentir être, va appliquer de façon extrêmement efficace les modèles de management qu'on lui impose, mais qui va développer un conflit éthique entre son besoin de se sentir exister et ce qu'on lui demande de faire et qui va finir par se jeter par la fenêtre du bureau. Et ensuite, tout le travail avec Badea, donc moi elle est auteur associée avec la compagnie sur 2 saisons. Monter Pulvérisé pour moi était. Pulvérisé raconte l'histoire de 4 personnes dans 4 pays du monde qui travaillent pour la même société, en tout cas pour le même produit, c'est-à-dire une box internet, et comment cette chose-là est morcelisée, comment leurs tâches sont morcelisées, et comment cette chose-là vient impacter leur intimité, comment leur intimité à eux devient, comme leur petit bout de travail, ça devient des petits bouts de vie. Et voilà, ça m'intéresse aussi. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, quant à la diffusion, si ça m'intéresse de répondre à ça. Oui. Sous la glace, on a fait 2 Avignon complets et on a dû faire 6 dates à l'extérieur. Pulvérisé est un dispositif qui peut aller partout. L'idée était d'aller justement, donc c'est une croix suisse avec 4 comédiens à chaque extrémité, qui peut jouer avec 4 lampadaires d'autoroute, il me faut une prise en 220, il n'y a pas de musique, il n'y a rien du tout. On peut vraiment jouer partout. Pour l'instant, en tout cas, Pulvérisé va tourner à la rentrée, mais on reste dans un environnement institutionnel pour l'instant, théâtral, classique, on voit sur des plateaux ou dans des salles comme celle-ci, par exemple. Mais l'idée était plutôt d'aller jouer un peu loin. Moi, je suis en Picardie, on est sur un territoire plutôt rural, donc aller emmener le spectacle, en plus un territoire industriel, enfin avec un passé industriel fort, avec des lieux industriels qui existent encore, qui sont vides mais qui existent encore. Donc l'idée était d'aller intervenir sur ce type de lieu. Bon, pour l'instant, c'est pas tout à fait encore le cas, mais je pense qu'effectivement, il y a une espèce de peur. Enfin, j'entends souvent une phrase que j'adore, c'est pas pour mon public.
Oui, voilà. C'est ça, oui. Ça explique tout.
Voilà, bon.
Oui, évidemment. Bon. Et toi, Elsa, quel est ton point de vue sur ces différents...
Les motivations
la motivation d'abord, ou effectivement. Non, puis après la diffusion. Ou on peut commencer par la diffusion, n'importe quelle
La motivation, moi, j'avoue que c'est pas au départ, c'est pas parce que je voulais travailler sur le monde du travail. Mmh. Au départ, vraiment, dans ma compagnie, on est à la recherche d'écriture forte, d'une langue. C'est ça qui nous passionne. Et donc, on lit tout le temps. On fait pas beaucoup de spectacles, mais on lit beaucoup. Et un jour, on est tombé sur Mike Bartlett, et tout de suite, la langue nous a accrochés. Mais on n'en a rien fait. C'était pour la pièce Mon enfant. C'est Yael et la Dade avec qui je dirige ma compagnie, qui travaille à la maison Antoine Vitesse. Et donc, on avait accès à des textes comme ça. Et après, on a découvert Contraction. Et là, tout y était. C'est-à-dire que c'est par là que j'ai vu que j'étais intéressée par le milieu du travail. Mais aussi grâce à la langue, à comment c'était écrit, en fait. Donc voilà, j'ai fait le chemin un peu inverse. voilà. Et en plus, ce qui était formidable, c'est que pour nous, il y avait tout. C'est-à-dire parce que le fond, le propos de la pièce est absolument génial. En gros, c'est sur l'ingérence de l'entreprise dans la vie intime d'une salariée. C'est le rapport entre une manager et une employée, et on va voir jusqu'où ça peut aller à partir du moment où on accepte une chose. Donc c'est cet engrenage, cette spirale infernale. C'est une pièce absolument diabolique au crescendo implacable. Et du coup, donc voilà, il y avait le propos, mais il y avait une mise en abîme avec l'histoire de la langue. C'est-à-dire que par la langue même... Ah, on m'entend pas.
Pour l'enregistrement.
Par la langue même... par la langue même, Bartlett nous plonge au cœur même de son propos, en fait. Parce que il va... C'est ça qui était assez incroyable. Il va montrer comment le processus de fabrication, comment on modèle quelqu'un et son langage. Et c'est pas simplement... Alors, non seulement il y a des définitions toutes faites dans l'entreprise, mais il y a aussi la manière de s'exprimer, comment on en vient à transformer quelqu'un. Et ça va se faire au fur et à mesure dans la pièce. Et donc, voilà. Et tout ça, il le fait. Alors, bon, ce que j'aime... particulièrement aussi parce que je fais du théâtre. C'est marrant parce que tout à l'heure on parlait de la jeune lune qui tire la vieille lune, que je connais très bien parce que voilà, C'est mes parents qui ont fait ça. Et moi, aujourd'hui, moi, ça, c'est pas ce qui m'intéresse de faire sur un plateau. Je trouve ça super. Il faut que ça existe. Mais aujourd'hui, après, faire du documentaire, enfin, à partir d'interviews sur un plateau, so what, quoi. Enfin, j'ai la télé. J'aime bien quand ça, on pousse à l'extrême, voilà, des situations. Et Mike Bartlett est formidable là-dedans, c'est qu'il va jusqu'à un moment donné, c'est de la science-fiction, quoi. Mais grâce à ça, en fait, il pointe du doigt encore plus où est-ce qu'on va. Il y a des gens qui se disaient, est-ce que c'est de la science-fiction ou de l'anticipation ? À partir, voilà. Et du coup, il va tellement loin, on est dans du théâtre et en même temps, ça pointe face à... Voilà. Et bon, dernière chose, il le fait avec... C'est un auteur anglais, j'ai oublié de le dire. Et donc avec... Et là, je suis assez d'accord avec Christophe Rock, ce qu'il disait tout à l'heure, c'est que l'humour est essentiel. Et là, il y a l'humour noir anglais, typiquement british, grinçant, là, comme ça, et qui permet en même temps de faire passer les scènes désagréables et en même temps de souligner la violence aussi, par le rire. Voilà. Donc voilà, bon, donc c'est comme ça que je suis rentrée dans ce biais-là. Et après, c'était quoi? Enfin, je suis sûre que j'ai oublié. La diffusion. Alors, la diffusion, j'ai beaucoup entendu, comme toi. La diffusion, alors on a créé ce spectacle ici à Avignon en 2013. Ça date, hein. Et c'était en même temps que France Télécom, tout ça. Enfin, c'était vraiment, c'était un sujet... vraiment grave, d'actualité, vraiment incroyable. Alors, je ne sais pas si c'est pour ça que ça a fonctionné, mais en tout cas, ça a très, très bien fonctionné. Et on a eu beaucoup de dates. Mais c'est vrai que pas forcément dans les... on va dire, dans les centres dramatiques nationaux. Ça va être... Voilà. Par contre, on a quand même eu beaucoup de théâtres intéressés, mais plus des... Oui, ça, enfin, remarque, ça dépend. Je suis un peu... Par contre, là où ça fonctionne du tonnerre, et c'est là où on a envie d'emmener les directeurs là, de théâtre comme Christophe Rock avec nous, dans ces tournées, on a fait 2 saisons de tournées CCAS. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Dans le théâtre, on connaît bien, je crois. Mais d'emmener ce spectacle-là, et c'était extraordinaire. Enfin, là, on parle de diffusion, c'était... Bon, alors là, par contre, il faut se blinder, hein, parce que souvent, les tournées CCAS, on fait le montage, le spectacle. Après, la discussion, on ouvre toujours un débat avec le public, ce qui est primordial. Eux, ils viennent au spectacle, ils sortent de la piscine ou d'une sortie canoë et tout ça. Et ils viennent voir ça et c'est sûr qu'ils étaient...
Ça refroidissait.
Ça refroidissait et en même temps, ils étaient heureux. Coup, ça ouvrait leurs paroles. Et on a entendu des choses, mais... que j'avais jamais entendu, ce qu'on n'entend pas au théâtre non plus, à la sortie, il y en a qui restent, mais bon. Et là, c'était des discussions, mais de gens qui nous ont dit, j'ai vu ma copine sauter par la fenêtre, ou enfin des histoires incroyables. Et là, du coup, nous, on doit être solides. voilà, mais sinon, ouais. Bon, après, je parle trop.
Non, mais c'est bien, mais tout cela, enfin, ces pièces-là dont on parle, illustre les réalités vécues d'aujourd'hui, mais c'est là où, comme tu le dis avec tes mots, la fiction est souvent beaucoup plus productrice par l'émotion qu'elle induit que n'importe quelle conférence. Il est clair qu'une pièce de théâtre qui éclaire des points obscurs de la vie au travail, c'est plus efficace que même avec tout le brio de Daniel, que d'expliquer ce que c'est par des mots qui font appel à la raison. Si la fiction procède par... c'est là, quand elle n'est pas purement documentaire, elle procède effectivement d'autres façons de percevoir. Et c'est ça qui peut apporter, et c'est dommage du coup que le théâtre, encore plus, je le redis, que le théâtre s'en empare pas plus, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur la perversion extrême là, qu'il y a dans la pièce de Mark Bartlett, par exemple, ou les mécanismes complexes qui sont décrits par Falk-Richter, les mécanismes réels, hein, qui sont à peine modifiés de la réalité, mais qui sont dits avec une langue particulière, qui fait que sur scène, il se passe quelque chose. Ça, c'est très puissant. Moi, j'ai des souvenirs très précis de la première fois où j'ai vu ce Unterreis dans le Hin, ici, parce qu'à l'époque, il y avait parfois... c'est une réponse que je fais en même temps à Christophe Meillet-Parti. Dans le Hin, il y avait parfois des pièces comme celle-là qui passaient, mises en scène par Nordeuil à ce moment. La perversion extrême, je ne vais pas dire le contenu, mais c'est moi, quand je vous ai vu jouer ça, j'avais déjà vu une autre version qui était elle aussi porteuse de ce même message. Et de ce même, qui fait comprendre le pourquoi des situations que vivent les gens, parce que on explique on comprend bien les objectifs, on voit bien les relations entre une direction et les salariés, on voit bien tout cela. C'est pas montré avec des mots idéologiques du tout, mais c'est par des petites choses très concrètes qui petit à petit pénètre et transforme les gens. Ça, c'est une réalité, mais qu'on comprend là très bien, je trouve. Voilà. Bon.
Bah, je tiens à préciser le travail des traducteurs dans ces pièces-là. Enfin, en tout cas pour Mike Bartlett, c'est un auteur anglais et et là, c'est tellement comme c'est vraiment sur aussi comme je disais la langue même induit. C'est le travail du traducteur est primordial et je tiens à parler de Kelly Rivière, donc, qui a traduit Mike Bartlett superbement.
On a encore un petit peu de temps. Ce que vous, de votre côté, quel est votre avis, tous les deux, là, sur l'importance justement de traiter au théâtre ça ou pas? Est-ce qu'on en fait assez? Est-ce qu'on en fait trop? Et quelles sont les raisons qui feraient qu'on n'en ferait pas assez, à votre avis?
En fait, je vous écoutais et je me disais, ben voilà, je vais sortir d'ici avec une injonction supplémentaire. Il faut parler du travail au théâtre. Mais enfin, après, c'est vraiment, à mon sens, en tout cas moi, en tant qu'artiste, c'est une question intime qui m'envahit. Enfin, je sais pas comment m'envahit, c'est un peu fort, mais en tout cas qui me travaille à l'intérieur de moi-même et qui va faire que j'ai besoin d'aller partager cette question avec mes contemporains, donc le public ou un territoire ou enfin des gens, quoi. Vous donc. Je ne me sens pas dépositaire d'une mission, et j'en veux surtout pas, d'une mission que d'aller répandre cette thématique-là, même si j'ai l'impression qu'elle est très centrale dans ma construction. Après, d'ailleurs, mon prochain spectacle part pas de travail.
Oui, vas-y, bien sûr.
Juste dire que j'ai l'impression, au contraire, que que le travail devient un enjeu théâtral, de plus en plus dans notre société. Les psychanalystes disent souvent que dans ceux qui reçoivent en libéral, auparavant, leur patientèle venait essentiellement pour parler de deuil, de séparation, d'histoire d'amour qui tournait mal, etc. Et que de plus en plus de patients viennent maintenant, s'allongent et parlent du travail. Et beaucoup de psychanalystes que j'ai rencontrés me disent « Et nous, on a un problème parce qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas bien. » Et je me disais, en les écoutant, parce que j'ai souvent entendu cette remarque, que le travail, c'est devenu, au niveau de la société, exacerbation des sentiments, des émotions, comme pouvait l'être l'amour à une époque. Le théâtre a été essentiellement centré sur les questions d'amour, me semble-t-il, qu'ils le deviennent de plus en plus maintenant, enfin, qu'ils puissent le devenir éventuellement de plus en plus autour des questions du travail, ne me surprendrait pas, parce que le travail touche de plus en plus à l'émotionnel individuel personnel et les enjeux de vie ou de mort, sentiment que c'est une question de vie ou de mort, c'est très réel maintenant dans le travail. Et donc, il me semble que peut-être les gens de théâtre pourraient être les récepteurs de ce déversement émotionnel nouveau qui puise son origine dans les enjeux tragiques du travail, parce que dans le travail, les gens sont confrontés à la remise en cause de leur identité personnelle, de leurs valeurs personnelles, mais aussi de leur éthique, de leur vision du monde, du sens de leur... Et ce sont des choses qui devraient pouvoir passer au travail. Moi, j'ai vu...
au théâtre, oui.
J'ai vu plusieurs petites pièces de théâtre dont je n'ai pas le souvenir dans beaucoup... Alors, ce qu'on dit, et j'ai cru percevoir un peu de ça aussi, de ne pas être un militant de ce point de vue-là. Oui, voilà. C'est un peu la peur qu'on peut avoir certains. Mais moi, j'ai vu des pièces de théâtre militantes que j'ai trouvées extrêmement belles et qui apportaient beaucoup, j'ai trouvé.
Moi, ce n'est pas ce que je voulais dire, et je n'ai aucune idée d'injonction. Je m'interroge simplement. Comment c'est possible que, alors que de plus en plus, ce qui se passe dans le monde du travail irradie tous les capillaires de la société, c'est le mot economicus partout. Je vous invite à lire d'ailleurs ce qu'on dit sur l'association Théâtre Monde du Travail dans le guide du professionnel. C'est une société qui est suréconomisée comme la nôtre. C'est étonnant, alors que tout se conditionne là-dessus, on est presque à gérer nos amours, quoi. Enfin, les mots ont un sens et ils viennent du monde du travail pour beaucoup dans la vie quotidienne. Et pour autant, je cite Michel Vinavert, l'entreprise a désormais remplacé le palais, ça date de 40 ans, a désormais remplacé le palais, la famille ou le champ de bataille comme espace théâtral. Il le disait lui pour lui-même parce qu'il a écrit ça. Parce qu'il a écrit beaucoup là-dessus, évidemment. Mais moi, je n'ai pas perçu que depuis qu'il a écrit ça, il y ait beaucoup de gens qui aient suivi cette voie. Cyril Test dit « Le sujet sur le monde du travail me semble un sujet brûlant actuellement. Rendre compte des réalités sociales par l'immersion. J'ai du mal avec un théâtre qui se voudrait en dehors du système, qui regarderait le monde de haut. » Mais j'ai plein de citations comme ça, même sur la finance. Alors Bruno Messa, la finance est ce que la guerre et ses combines ont été pour Shakespeare. Roland Schimmel-Fenick, et si le drame d'aujourd'hui avait pour cadre l'entreprise, comme personnage ses cadres, ses DRH, et comme langue celle du marketing et des arts du marché. Je pense qu'il y a plus de création d'ailleurs en Allemagne ou en Angleterre sur le monde du travail qu'il y en a en France. Bon, et les auteurs dont on cite là, Falk Richter, Roland Schimmel-Fenick, aussi bien que Mike Bartlett, ne sont pas des auteurs français. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'auteur français, et Catherine Benhamou en est un exemple, mais ils ont du mal à se faire entendre en tous les cas. Bon. Et Falk Richter dit que la mission de l'artiste c'est de porter un regard sur le monde, bon ça c'est pas le seul à le dire, et son œuvre a le mérite de déplacer le regard vers la matrice idéologique à l'origine des mutations sociales plutôt que de déplorer une nouvelle fois leurs conséquences sur les victimes précarisées du nouvel ordre économique. Autrement dit, c'est un moyen d'expliciter la complexité du monde de l'entreprise, qui s'est effectivement beaucoup complexifiée à l'âge de la financiarisation, ce qui introduit des tas de problèmes dans la vie des travailleurs. Et Alexandre Abadéa a dit « Le théâtre, c'est un espace de pensée pour donner du sens au chaos du monde. » Qui ne voit qu'il y a le chaos du monde et qui a besoin d'y donner du sens. Et le théâtre a son rôle à y jouer, au moins. Mais d'ailleurs, il essaye de le faire. Mais aujourd'hui, c'est aussi... moi, j'ai l'impression que par rapport à il y a quelques années, je n'ai pas eu le temps de le dire tout à fait tout à l'heure, mais je le dis maintenant, puis avant de vous passer la parole, peut-être. Il y a quelques années, il y avait plus de visibilité de cette thématique à l'époque où elle est sortie par-dessus bord. À l'époque où, ici, il y a eu Falk Richter, c'est à peu près concomitant. Il y a eu y compris donc, dans l'institution. Parce que tout le monde sait que le théâtre est vu au travers souvent de l'institution et non pas par la troupe qui est juste à côté. Et bien, aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure, il y a très, très peu de choses dans l'institution qui portent là-dessus. Bon.
Ils ont peut-être peur, comme nous, quand...
Là.
Ils ont peut-être peur, comme nous, quand on nous dit, les directeurs de théâtre qui disent ouais, « c'est pas pour mon public ». De toute façon, ils sortent du travail, ils ne vont pas venir voir un spectacle sur le travail. Et peut-être que, du coup, les auteurs se disent
bien sûr.
Je ne sais pas. Ils ne sont pas comme
les programmateurs, en tout cas,
de Vos tout à l'heure qui disait moi je m'en fiche, enfin, il est libre, enfin, il y va. Mais moi je pense un peu comme Daniel, j'ai l'impression que ça va. Ce n'est pas possible que ça, qu'il y en ait si peu. Donc ça, je pense qu'en plus avec toutes les ces nouveautés, tout ce qu'on en dit, maintenant la parole commence à. Je pense que.
Peut-être.
Ça va.
Je voudrais le croire, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y en a déjà eu assez, et en se référant justement à cette période où il y avait à Avignon des spectacles là-dessus. Une année, il y en a eu 3. Voilà. Maintenant, parole au public, parce que vous avez sans doute plein de questions à leur poser là.
Oui, bonsoir. D'abord, je remercie Art et Travail de nous avoir organisé cette journée, qui est très intéressante. Culture, travail et culture, pardon. Donc j'avais plusieurs questions et plusieurs remarques. Si on parle de la tourmente managériale, moi je mène une entreprise, je suis syndicaliste, qui est 9000 salariés, et là où je travaille on est 4000. Si on fait le constat des burn-out aujourd'hui, essentiellement c'est des managers qui font des burn-out, parce qu'on leur demande vraiment d'être impitoyables, parce que nous on a un managérial qui est géré sur la peur. Donc on a vraiment un problème avec cette catégorie du personnel parce que on les appelle des team leaders. Et donc ces personnes-là, elles sont vraiment prises entre deux étaux, c'est-à-dire entre les salariés qui gèrent et la RH et le manager N plus 1. Comme on dit chez nous. Donc c'est vraiment des personnes qui sont vraiment au début conquérants, puis après qui se fragilisent petit à petit. Donc on peut dire qu'ils sont vraiment à la tourmente. Et donc c'est vrai qu'on peut faire le constat, ça serait intéressant de... Je ne sais pas si vous avez fait des études là-dessus, mais moi je vois, parce qu'aujourd'hui on embauche beaucoup d'ouvriers par le biais de l'intérim, donc c'est vraiment des personnes assez jeunes. Et ils ont vraiment un autre regard sur le travail que nous on avait auparavant, parce que c'est des personnes qui savent déjà d'entrée qu'ils ne vont pas rester longtemps dans l'entreprise. Donc ils ont un rapport au travail qui est complètement à changer. Parce que je le vois, on ouvre des postes, l'entreprise ouvre des postes pour, à des niveaux un peu plus intéressants que de faire de la manutention. Mais ces personnes-là ne postulent pas, parce qu'elles se disent à quoi bon. Pour le même salaire, avoir plus de responsabilités, ça ne sert pas à grand-chose. Alors que par le passé, les personnes justement postulaient à ces postes pour être un peu plus tranquilles.
Ah oui, pour être un peu plus tranquille.
Et après, sur la deuxième chose, sur une autre chose qui me vient à l'esprit, c'est sur le. Aujourd'hui, justement, pour éviter les France Télécom, malheureusement, on met en place des accords qui s'appellent qualité de vie au travail. Oui. C'est un vaste blabla, mais bon, les entreprises sont obligées de le faire. Et tout à l'heure, j'entendais Mme Linhart sur le fait que les syndicats s'en emparent pas beaucoup, c'est vrai. Mais chez nous, la CFDT s'en est beaucoup emparée. Elle a même sorti un fascicule où ils mettaient en place le directeur du bonheur. Donc ils l'ont distribué dans l'entreprise, ça a fait rigoler un peu tout le monde. Mais ça existe, quoi. Il y a des syndicats qui s'en préoccupent. Et dernièrement, pour Vincent Dussard et Elsa Bosque, c'est vrai que moi je suis élu dans un comité d'entreprise, c'est vrai que quand on fait notre sélection de spectacles, on a du mal à trouver des spectacles qui parlent du travail. Et je pense que ce serait peut-être une idée, c'est que la relation qu'ont les comités d'entreprise avec les salles de spectacle, si quelques comités d'entreprise se réunissaient, et avec les moyens qu'on a, on pourrait demander à des salles de spectacle de programmer tel ou tel spectacle. Ça, aujourd'hui, on ne le fait pas, mais ça serait peut-être une idée à creuser.
C'est parce que vous trouvez pas de pièces.
On n'en trouve pas beaucoup aujourd'hui. Bon, des pièces. Moi, je viens de Grenoble, donc.
Ah, c'est ST.
Oui.
ST micro. Oui. D'accord.
Donc, je sais que quand on fait le tour des pièces qui parlent du travail, on avait sélectionné la pièce de Daniel Linhart qui était passée à l'Hexagone de Milan, de Vincent Dussard, pardon.
De Vincent Dussard.
Et
d'accord.
Mais les gens en sont friands. Là, dernièrement, on a fait avec la médecine du travail, on a amené pareil à l'Hexagone de Milan, un spectacle sur le burn-out, et on a amené du monde, on a amené plus de 50 personnes. Et sur la protection du travail en France, aujourd'hui, on a beaucoup souffert, là, dernièrement, depuis les ordonnances Macron, Et avec l'affaiblissement de l'inspection du travail et ouais. des médecins du travail, aujourd'hui, c'est très très compliqué pour les salariés. Et on n'est plus autant en sécurité qu'avant. Voilà.
Mmh. Ok. Ça vous appelle des réponses ou des remarques ? Ou dans l'assistance, peut-être ? Poursuivons. C'est du vécu.
Oui, moi, c'est une question pour Elsa Bosque au sujet du théâtre. Parce que j'étais intrigué par le fait que vous ayez été sensible à la langue de cet auteur, dont j'ai oublié le nom, je crois que c'est Bartlett.
Mike Bartlett.
Ce qui a déclenché quelque chose chez vous, c'est cette langue. Mais j'ai essayé de saisir ce qu'elle avait de spécifique, cette langue, qui vous a conduit à vouloir faire quelque chose. Est-ce que vous pouvez en dire un petit mot ?
Ouais. Bon, moi, au départ, je suis comédienne. Donc, forcément, on est sensible à ce que... Par le langage, par ce qu'il va faire... comment dire ? C'est l'écriture de Mike Bartlett, c'est une écriture absolument très précise. Concise, rythmée, c'est une partition musicale, une réelle partition musicale, et si on la respecte au pied de la lettre, c'est absolument incroyable comment, c'est là où moi je dis que c'est, tout est ficelé, c'est là où l'humour va venir, où le monde du travail même, je l'ai compris, pas en allant voir une autre, je jouais la manager méchante, et allant voir une autre manager, c'est en respectant cette forme, cette langue, quand un texte est bien écrit comme ça, tout est là. Pour le comédien, il n'y a plus grand-chose à faire, en fait, j'ai envie de dire. Non, mais c'est vrai, si on respecte cette rythmique, cette partition, oui, tout est là. C'est cette langue-là dont je parle. Après, pour un autre auteur, ça va être la langue, je vais l'aimer pour d'autres raisons. Hein, là, c'est celle-ci qui m'a vraiment plu. Voilà. C'est au scalpel,
pour
vraiment.
Moi, c'est au scalpel.
Ouais.
Et du coup, elle découpe les personnages. Et, vraiment.
Comment ?
Non, mais je veux dire, la langue qui est au scalpel, je trouve l'analogie par rapport à la perversité de la relation entre les deux personnages.
On parle de la langue, et je reviens sur la question du monsieur, enfin sur ce qu'il a dit le monsieur, par rapport au suicide des managers. Là, bon, c'est elle qui a le pouvoir, mais il offre aussi, Mike Bartlett, une ouverture qui fait qu'au final, on sent qu'il y a toujours un au-dessus et que la manager, elle est aussi... fait, là, c'est une manager avec son employé et on sent qu'elle a été employée avant. Et ça se trouve, c'est écrit en 14 scènes, ça se trouve, c'est la formation même de la future manager qu'elle est en train de faire. On ne sait pas. C'est ouvert. Et à la fin, dans la mise en scène, on mettait ce point. Parce que la manager qui paraît très, très dure et tout ça, mais elle aussi, elle aussi, il y a quelqu'un au-dessus. Il y a toujours... Voilà. Et... c'est comme ça que je répondais un peu.
Autre question ?
Alors, ici, bonjour. Moi, j'ai une question qui s'adresse plutôt à Daniel Linhart. Donc, moi, je suis auteur et j'ai écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Desirium Tremens sur le désir de travail, le désir de métier. Enfin, voilà, c'est un autre débat. Et du coup, vraiment d'aborder la question du travail par l'angle de la question du désir. Et peut-être d'une pulsion de travail, enfin bon, autour de tout ça. Et donc j'étais très sensible à ce que vous disiez à la fin sur la question de la subordination et de l'intériorisation de ça, puisqu'évidemment j'ai tourné autour forcément de ces questions, puisqu'on, si on parle de désir, on parle vraiment de subjectivité, d'intériorisation, etc. Et donc je serais assez curieuse, bon là il n'y aura peut-être pas le temps, mais de savoir un petit peu ce que vous entendez. Enfin, ce que vous pouvez entendre comme ouvrir comme autre possibilité, puisque vous avez l'air de de critiquer, enfin de dire que c'est ça qui fait aussi le nœud du problème ou le nœud de la question. Donc j'entends bien qu'il s'agit justement d'accepter de critiquer, déjà c'est une action. Et en même temps, comme vous aviez à un moment aussi dit que les modèles entrepreneuriales dits horizontaux étaient finalement peut-être les pires, ou en tout cas participaient encore de cette logique de subordination encore plus intériorisée, bon ben voilà, qu'est-ce qu'il peut y avoir peut-être d'autre, ou enfin, où vous en êtes-vous par rapport à ça ?
Oui, je pense qu'il faudrait parvenir à ce que on puisse intellectuellement déconnecter la subordination de cet ensemble de droits, garanties, protections qui sont absolument nécessaires dans le cadre du salariat. Moi, par exemple, en tant que sociologue, je pense qu'il faut défendre, non seulement défendre, mais développer le salariat, et que toutes les solutions... alors, je suis désolée pour le monde des spectacles, c'est quand même très particulier, mais en dehors du monde du spectacle, tout ce qui est freelance, ubérisé, auto-entrepreneur, etc., ça se révèle des situations parfois plus difficiles encore, plus dramatiques que celles qu'on peut vivre au salariat. L'intérêt du salariat, c'est que c'est une forme de mise au travail collective, et donc qui permet aux salariés de se défendre collectivement et de faire avancer leurs intérêts. Qu'est-ce qu'on pourrait substituer à cette notion de subordination ? Moi, contrairement à ce que me disent souvent les inspecteurs du travail, les juristes et les syndicalistes, c'est pas parce qu'on est subordonné qu'on a droit à être protégé. On a droit à être protégé parce qu'on s'engage dans un travail et que tout type de travail expose nécessairement à des risques et pose la question ensuite de qu'est-ce qu'on va devenir plus tard, comment on va pouvoir continuer à subsister quand on aura fini de travailler. Donc je pense qu'il faut parvenir à... C'est ça la sociologie, c'est de déconstruire et de montrer que tout ce qui nous apparaît comme évident, naturel et inchangeable est la plupart du temps la conséquence de différents choix successifs à des moments historiques qui se sont accumulés et qui ont fait que... Voilà. Maintenant, la subordination, elle apparaît incontournable. Je vous donne juste un petit exemple. Il y avait une énorme... congrès à l'ESCP de gens, le campus pour les entreprises libérées, puis il y avait un patron, il dit j'ai libéré mon entreprise, j'ai libéré alors qu'effectivement c'est un type extrêmement autoritaire, et je lui pose la question, la première, je lui dis est-ce que vous pensez que la notion de libération de l'entreprise est compatible avec celle de subordination, parce que dans les entreprises libérées, comme ça reste des salariés, ils sont soumis à la clause de subordination. La réponse du monsieur, pourquoi tu me poses des questions à la con comme ça, toi, devant 700 personnes. Voilà, oui. Donc pour vous dire le degré de débat dans lequel il était prêt à s'engager sur cette question. Je vous dis que vous êtes libéré, me faites pas chier. Voilà, bon, mais c'est exactement ça. Donc la subordination, c'est une vraie question qui débouche sur une question fondamentale de société, à savoir à qui appartient le travail. À qui appartiennent les entreprises. Je dis souvent, et pour moi, symboliquement, c'est terrible. En 1999, le CNPF, le Conseil national du patronat français, ça dit ce que ça veut dire, s'est transformé, s'est auto-rebaptisé le MEDEF, le mouvement des entreprises de France. C'est-à-dire que le patronat a dit, nous sommes les entreprises. Les entreprises sont constituées quand même par les salariés qui y travaillent aussi. Non, on a évacué symboliquement les salariés. Les entreprises, ce sont les dirigeants. Et de la même manière que Gattaz, le président de MEDEF, disait « il faut libérer le travail ». On est dans une logique extrêmement pernicieuse, partagée naturellement comme ça par nombre de gens, qui est que... Il ne faut pas trop embêter les patrons. C'est eux qui garantissent l'emploi. Ils disent, nous créons des emplois. Comme si on peut créer un emploi sans salarié. Je veux dire, c'est ahurissant. Pour créer un emploi, il faut quelqu'un éventuellement qui dirige une entreprise. Et puis, la personne qui va occuper l'emploi. Sinon, ça n'existe pas. Donc, reconsidérer que les entreprises pourraient être gérées en fonction d'une nécessité impérieuse qui est celle de respecter les ressources humaines. J'emploie ce terme qui est pas du tout le bon, évidemment. Respecter aussi les consommateurs, parce que qu'est-ce que nous sommes roulés dans la farine au nom du fait que le roi serait le client. Et respecter également, troisième impératif fondamental, les ressources de la planète. Tant qu'on n'aura pas compris qu'une entreprise et que le travail ne peut pas continuer sans être l'objet de débats de l'intelligence collective que constituent les salariés, les dirigeants, même les actionnaires, pourquoi pas, les consommateurs et les citoyens porteurs de la question écologique, eh bien on va droit dans le mur. Et imaginez que ça peut continuer avec quelques dirigeants. On voit ce que ça a donné au procès de France Télécom. Et puis tout le reste des 120 000 subordonnés, voilà ce que ça peut donner. Donc c'est un débat fondamental et qui a à voir avec l'identité citoyenne de chacun. Nous sommes dans des démocraties politiques où nul n'est censé appartenir à personne d'autre. Or, dans le travail, il y a cette réalité absolument exceptionnelle et contre nature qui fait que dès que vous signez votre contrat, vous êtes dans un rapport de subordination. Oui,
on a juste une petite question avec une réponse de 30 secondes possible. Alors, vous voyez à peu près de quoi je parle. Il y a une dame au fond et puis il y a qui a levé le bras en premier. Eh bien, pour respecter la parité, on va demander à la dame au fond. Non ? Aussi ? Ah bon ? Une remarque.
Oui, Gilbert Conny, je travaille à Avignon. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je pense que quand même le management se repose sur une grande fragilité. Ce sont des gens qui ont perdu l'habitude, qui ne sont plus formés à la conduite des êtres humains. Et donc, ça dure tant que le rire n'a pas repris d'espace au travail. Et c'est pour ça que nous avons besoin de vous. Et que les liens doivent se faire entre le théâtre et les travailleurs. Parce que nous avons des choses en commun à rire ensemble.
Ça ouvre un champ de discussion complet qu'on peut avoir après. Je suis d'accord.
Moi, j'ai quand même juste une petite remarque. Nous sommes des travailleurs, hein ?
Oui, oui.
Quand même.
Oui.
Non, parce qu'à chaque fois, on met comme si on parlait d'autres gens, mais on travaille de la même manière.
Nous sommes des travailleurs, et je pense que l'idée de Bérénice, c'est Bérénice qui en parlait tout à l'heure. Je pense que là, à dire aux auteurs, le monde du travail dans le théâtre, je trouve qu'il y a de plus en plus de choses. Enfin, peut-être parce que je grandis, je m'aperçois de plus en plus de choses. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi. Et c'est pareil, hein, c'est des entreprises. Hein.
Par exemple, c'est très intéressant d'aller étudier le lien de subordination dans les compagnies, qui est un lien de subordination en plus qui est caché, puisque le metteur en scène n'est pas le gérant de la compagnie. Et pourtant, c'est lui qui a un lien de subordination avec les comédiens. Le désir dans ce rapport-là, il est... voilà, je vous invite à lire une thèse de Marie Potiron qui a écrit sur travail et désir dans le travail de comédien. Qui fait partie du laboratoire de Christophe Dejour, qui traite de ça. C'est très, très étonnant à lire.
Bon, je crois qu'il faut qu'on arrête là. Vous n'êtes pas trop frustré? Bon, si, vous êtes frustré. Mais moi aussi, je suis un peu frustré parce qu'on pourrait continuer pendant très longtemps. Mais là, on n'a plus le temps et c'est le festival qui nous l'impose. Mais merci pour tout. C'était un plaisir partagé. Plaisir partagé. Non, c'était un plaisir. Le rire, oui, mais quand je suis parti du.